J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Radio Vélo, Radio Vélo Indirect ce mercredi 24 février 2016. Bienvenue Julien.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue.
À mes côtés également Benjamin.
Bonsoir tout le monde.
Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Et nous avons un studio, le plaisir de recevoir Gilles Girardeau, le président organisateur du Grand Prix de Montastruc qui aura lieu dimanche.
T'as vu, il est arrivé les mêmes peines.
Et qu'on va présenter avec un petit magazine, une affiche pleine de couleurs. Bienvenue Gilles.
Merci, bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue d'être, merci d'être avec nous ce soir pour toute l'heure d'un programme bien chargé avec dans quelques instants un petit débat. C'est le petit débat hebdomadaire avec nos amis de Vélo Club du Net. Guillaume qui est déjà sur les réseaux sociaux, hein, vous nous suivez sur le Twitter, @radiovélo31, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous retweeter et on vous en remercie. On parlera également du début de saison pro et amateur, vu que Montastruc est là, c'est qu'il y a déjà eu quelques courses. À 19h25, on aura l'homme en forme, l'homme heureux aussi du moment, Arthur Vichot, qui sera avec nous, le coureur d'équipe FDJ.
Après deux ans de disette, je pense que ça a dû lui faire du bien d'aller en reclaquer une. Pour le moral, ça doit sacrément faire du bien, parce que deux ans passés à naviguer, j'attends avec impatience de l'avoir au téléphone.
Arthur Vichot, et puis également dans ce programme, la chronique matos. Guillaume n'en peut plus de faire du vélo, de tester des roues, des freins,
des capteurs de puissance,
des casques. Et comment ça s'appelle la ficelle, du coup, t'as dit, fallait dire pas guigui.
Ah non, le ruban de cintre.
Ruban de cintre.
Et accessoirement, on change des couches, donc.
Oui, c'est pas mal ça aussi. Et puis Benjamin, donc le petit débat, la minute régionale, ça sera la présentation du Grand Prix de Montastruc, mais on commence donc par le débat.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Le débat, on va pas le faire, le débat sur le partenariat d'Assaut avec le vin chilien, hein, bien que ça commence à pas mal réagir sur Internet. Je sais pas si vous avez vu ça, même certaines parties qui sont en train de se le réapproprier. Bref, apparemment le Tour de France aura un partenariat en vin pour les étapes du Tour de France à l'étranger, parce que la loi Evin oblige, on n'a pas le droit en France, donc vu que le Tour de France passe en Suisse, en Andorre et en Espagne, eh bien il y aura un vin officiel et ça sera le vin Conosur, la cuvée Bicicleta, je me suis renseigné. Mais par contre, ça râle beaucoup, parce que c'est pas comme si la France était le pays du vin. Bref, Benjamin, c'est pas ça, toi, que bien qu'on ne sait pas s'ils ont bu du vin pendant la coupure hivernale, nos amis, mais le débat, c'était pour savoir un petit peu ce que les forumers retenaient ce début de saison du point de vue
des cadors.
Des cadors, c'est ça ?
Et oui, des cadors. Donc, c'est surtout parti sur un débat par rapport aux coureurs de course par étape quand on parle de cadors, même si c'était dans la question plutôt les leaders qui sont en sprint, en contre-la-montre, les Flandriens ou les coureurs de grand tour. Donc, on s'est surtout parlé des coureurs de grand tour et notamment parce que cette semaine, ils se sont quand même bien distingués, que ce soit Vincenzo Nibali qui a gagné le Tour de Mans devant Romain Bardet. Mais celui qui a le plus espanté les forumers, et en particulier parce que c'était diffusé en direct, c'est Alejandro Valverde,
qui a
écrasé la dernière étape du Tour d'Andalousie en attaquant de loin et en reprenant le temps qui le séparait de la première place du classement général.
C'est vrai qu'il a fait forte impression, parce qu'on le voyait à un moment donné, je me suis mis à deux reprises à regarder, j'ai dit putain, mais il monte grand plateau, j'ai dit mais bon, déjà il est parti costaud, mais putain, j'ai dit mais il monte grand plateau, mais c'est impressionnant quoi. Il prenait seconde par seconde, donc c'est vrai qu'il est, il a, voilà, et on le voit déjà très en canne déjà dans ce mois de février, donc ça augure de bonnes choses pour la suite quoi.
Après, c'est un coureur qui a l'habitude d'être en forme plus ou moins toute l'année, mais c'est vrai que là, il a quand même frappé fort. Et puis, c'est un coureur qui est en forme toute l'année, mais qu'on voit souvent attaquer à un kilomètre ou moins de l'arrivée. Il a une certaine réputation de compter ses coups de pédale. Et depuis quelques années, et encore plus dimanche, il est parti de très loin. Bon, il n'avait pas le choix, mais Il est parti de loin.
C'est pas son habitude de partir aussi loin que ça. Habituellement, il part un peu plus proche de l'arrivée.
Ouais, c'est un sprinter des montagnes, on va dire.
C'est Valverde, quoi.
C'est Valverde. Mais un peu moins ce qu'il a fait ces deux dernières années.
Ouais, il est capable d'en gagner, comme l'an dernier, juste sur un sprint au sommet, d'aller en claquer une sur la ligne. Là, il s'est quand même découvert. Hein. Il y avait quand même du monde derrière, il s'est découvert.
Mais Valverde était également un peu victime de sa réputation, puisque lorsqu'il a été découvert, qu'il a éclaté au Grand Ours, c'est lorsqu'il avait tapé Armstrong à Courchevel en 2005, au sprint.
Oui, avec l'équipe Ibanesto, il Balear à l'époque. Il Balear parce qu'avant, il était formé à la Calmé, Comunitat Valenciana. Hein.
C'est ça.
Il a fait le début du Pro Tour en 2003. Et oui, c'est un vieux de la vieille, Valverde.
C'est un vétéran.
C'était.
Et en parlant de vétéran, transition sur un autre vétéran espagnol qui est dans sa dernière saison, sans doute, c'est Contador, qui avait un peu déçu sur la première arrivée difficile du Tour d'Algarve. Et qui a vite montré qu'il était lui aussi en forme sur la dernière arrivée au sommet, en battant Fabio Aru et Thibaut Pinot, qui ne sont pas les premiers venus, et qui font partie des cadors maintenant, puisque Fabio Aru, c'est quand même le vainqueur sortant de la Vuelta.
Et pour Pinot, il fait même partie des hommes en forme dont on parle.
Ben oui, de toute façon, toutes les courses qu'a fait Pinot, que ce soit Grand Prix de la Marseillaise, Étoile de Bessèges, ou donc Tour d'Algarve, il a été tout le temps dans les plus forts. Donc
la FDJ qui fait un sacré démarrage cette année, Tour Méditerranée, bon, même si la concurrence n'était pas spécialement là, mais c'est vrai que Thibaut Pinot qui marche fort, Arthur Vichot qu'on aura tout à l'heure.
Arnaud Démare qui a gagné.
Voilà, donc ils font un sacré début de saison. Après, il n'y a pas que Direct Energy aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui commencent à.
Ils sont. Je veux dire que le niveau est de suite élevé, alors qu'à l'époque c'était pas aussi. Gilles, tu es d'accord avec moi, à l'époque on avait les coureurs étaient moins prêts, enfin de bonne heure. Là je trouve qu'ils sont vraiment déjà dans le coup pour la plupart. Bon, on n'a pas vu certains Flandriens, comme je le disais tout à l'heure, certains qu'on n'a pas encore vus qui vont arriver.
Canchera a déjà gagné une étape.
Oui, mais il sera pas là par exemple au Het Nieuwsblad samedi.
Et là, c'est vrai qu'ils sont déjà. Alors, est-ce que c'est parce que la météo, c'est vrai qu'elle a été favorable pour
l'hiver
tout le monde,
doux,
certes, c'est vrai que. Mais le niveau cette année, ça démarre fort.
Et pour revenir sur Contador, tu disais dernière année, c'est même pas sûr.
Oui,
entre guillemets, parce qu'il monterait une équipe et il sait pas encore s'il serait coureur ou.
Il fait monter les achères, quoi.
Voilà, ou simplement.
Oui, il a sa formation espoir.
Ouais, mais là il monterait carrément une équipe pro. Donc c'est peut-être qu'il repartirait
avec Fernando Alonso là, le truc.
Je sais pas.
Manolo Seis aussi revient, hein, peut-être c'est lié.
Attention.
Peut-être Manolo parce qu'il a une équipe Conti, je crois. Hein.
Non, enfin, je suis pas sûr que ce soit Conti. C'était sur les sorts basques, donc je sais pas si c'est Conti ou juste en dessous au plus haut niveau amateur espagnol.
Gilles Girardo, hein, pour ceux que c'est vrai, ici on parle entre sudistes, hein, mais si vous nous écoutez. D'autres terres de vélo, parce qu'on sait qu'il y en a partout en France. Gilles Girardeau est avec nous en studio, le président organisateur du Grand Prix de Montastruc. Gilles, le petit débat est lancé donc du côté des forumers sur l'actualité cycliste. Vous suivez quand même l'actualité des pros, parce que c'est vrai qu'on reçoit des organisateurs, certains suivent pas du tout, d'autres sont passionnés à leur façon. On vous classe où, Gilles?
Moi, je pense que je fais partie des passionnés du vélo, donc je suis les amateurs, je suis les pros tout au long de la saison, quoi, hein.
Donc, quand on vous dit les noms, là, vous voyez de qui on parle.
Ah ben, ouais, oui, ça, y a pas de souci. Un petit peu.
Donc, c'est vrai que ça arrive, hein, qu'il y ait des organisateurs qui soient plus sur le côté, l'un n'empêche pas l'autre, mais qui sont plus sur le côté événementiel.
Ouais, mais après, Gilles a beaucoup de casquettes, donc, aujourd'hui, voilà. Il est vraiment impliqué dans le milieu du vélo, aussi bien par le biais du comité, il est animateur speaker, donc voilà.
Il n'y a que déjà multi-casquettes ici.
Donc, quelqu'un de polyvalent, donc il est vraiment dans le milieu du vélo, quoi.
Benjamin, il y a d'autres choses à retenir,
oui,
du débat.
Oui, il y a deux coureurs qui ont un peu déçu. C'est Richie Porte,
oui,
qui a fait Richie, le Tour d'Oman en touriste. Bon, alors apparemment il était un peu blessé, mais
au Tour d'Onender il était pas trop mal.
Non, mais j'ai vu une photo sur le Tour d'Oman, j'avais l'impression qu'il était un peu gonflé, quoi.
Ah.
Qu'il était moins affûté qu'au d'Onender, ce qui est bizarre. Bon, après on sait que certaines photos, selon l'angle, des fois les coureurs sont plus ou moins affûtés. Et c'est Joaquim Rodriguez qui a rien fait.
Ouais, Pourito n'a rien fait aussi.
Rien du tout. Il se prépare en cachette.
Ouais, on peut lui faire confiance pour.
Ouais,
pour
voilà.
Être discret.
Après, on ne sait pas si ceux qui sont déjà au top, c'est eux qui ont raison. Pour l'instant, on ne sait pas.
Depuis 2011, je vais parler pour le Tour de France, en tout cas le vainqueur du Tour de France a été en forme toute la saison, notamment Bradley Wiggins ou Chris Froome qui ont gagné toutes les épreuves auxquelles ils participaient avant de remporter.
Oui, mais c'est pas un bon exemple vu que c'est que des coureurs de Sky.
Ouais, mais je crois que Cadel Evans avait fait une grosse saison en 2011 également.
Bon. C'était pour te taquiner. Landa, je vois malade, mais Landa ça va être le fiasco de l'année, non? C'est ça qu'ils avaient dit, les faux rumeurs.
C'était mon pari en tout cas, pas pour tous les faux rumeurs, mais la Sky a eu, entre les blessés et les malades, il y a eu Kwiatkowski, Landa, Lopez Garcia, ils ont pas mal de houle, attention Nicolas, oui. Calme-toi, je sais que tu es fan de la Sky, mais...
Non, c'est pas... c'est des beaux véhicules. Ouais.
Mais est-ce que les cours qui sont déjà prêts maintenant, moi je veux bien entendre ce que tu me dis, que les vainqueurs du Tour ont été déjà pris en avance, mais est-ce que ceux qui sont prêts maintenant, on sait très bien qu'un pic de forme, quand t'as ton pic de forme, c'est difficile de le garder 2, 3, 4 mois. En général, un pic de forme, c'est
la saison est longue.
On est le 24 février. Les courses flandriennes vont pas tarder.
Paris-Nice n'a pas commencé.
Mais je pense qu'on est un peu revenu sur une mode où les plus forts sur leur classe naturelle sont au-dessus.
Tu veux dire qu'on a moins de dérives de ces coureurs-là qu'il y avait peut-être dérivées par le fait de moins s'entraîner.
Je ne vais pas dire qu'il y en a moins, mais en tout cas moins grosses. Oui, c'est vrai qu'on voyait des coureurs qui faisaient rien, qui deux semaines après éclataient tout. Je trouve que maintenant c'est un peu moins le cas. On voit les coureurs, enfin les leaders, les cadors justement. Ceux qui sont au-dessus, même s'ils sont un peu moins en forme, ils vont quand même jouer la...
Ouais, de par leur classe, de par leur niveau, sont déjà au-dessus.
Et je trouve que c'est mieux. Après, est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me trompe complètement ?
C'est sûr qu'il vaut mieux. Je préfère voir un coureur qui part sa classe et dire au top que voir un coureur qui, pendant l'hiver, a pris 15 kilos, 20 kilos. C'est quand même plus professionnel d'arriver
à ce niveau-là. C'est fini d'avoir 20 kilos de trop et de gagner les Tours de France. Ça se fait plus.
Ça se fait plus, non.
Bon.
On va voir Carlos Betancourt cette année.
Non, il ne devrait pas gagner le Tour de France quand même. Mais par rapport, vous avez évoqué rapidement, vous êtes revenu sur les cadors mondiaux, mais vous avez évoqué le bon début de saison des Français, avec beaucoup d'adversaires franco-français, moi je dirais.
Oui, il y a quand même un petit
rendez-vous à Paris-Nice.
C'est le premier. Bon, après, on verra déjà pour certains le Newsblatt, je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, ça.
Oui,
m'a dit,
bien sûr.
Où là, il y a quand même une belle opposition.
C'est ceux qui font des super campagnes aux communications, ça.
Voilà. Le Grand Prix de Troyes. La jupe qui se soulève. Mais
Paris-Nice, ça va vraiment être le premier gros rendez-vous des épreuves par étapes où vraiment il y aura une concurrence mondiale, je pense.
Oui.
Et là, on pourra effectivement voir le niveau des Français par rapport à tous les autres coureurs.
On a besoin que les Français brillent aussi sur des compétitions comme ça. Là, cette semaine, c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure avec Arthur Vichot qui a gagné le Tour du Var. C'est une des belles épreuves références du mois de février. L'étoile de Bessèges, ça s'est bien passé. Je crois que c'est aussi un Français, Coppel, qui a gagné le général. Je disais ça parce qu'il y a aussi cette nouvelle épreuve, le Tour La Provence.
Organisé par Serge Pascal aussi.
J'allais te dire que c'est sûrement le journal La Provence qui est derrière.
C'est ça.
Mais donc Serge Pascal aussi qui organise. Et c'est une épreuve, en tout cas, qui, pour les deux premiers jours de course, en tout cas, monopolise les attentions parce que très beau parcours et
c'était un chantier.
Beau plateau. Gilles, je ne sais pas si tu as suivi un petit
c'est
peu.
C'est là où Lilian a fait 3.
Lilian Calmejean, 3e derrière Thomas Vauclair qui
s'impose. Avec une dernière difficulté à 20%.
Spectaculaire, oui. Enfin, c'est pas beaucoup par rapport à ta truc, 20%, c'est ça?
Ah, c'est un peu moins, quoi.
Mais non, c'est bien de voir des épreuves comme ça arriver à se démarquer. On verra. Ouais. Là, je vois aujourd'hui, il y a des maillots Quick-Step.
Il y a eu une chute.
Sur la photo, ça c'est pas rien, quoi. Ça, pour un organisateur, ça compte.
Ouais, ça donne de l'ampleur à la course. Voilà, quand il y a c'est comme Gilles. Hein, il n'y a pas de plateau, c'est toujours plus glorifiant et ça met beaucoup plus en valeur une épreuve quand il y a un super plateau. Parce que ça veut dire que cette course-là a de l'intérêt. Et c'est bien pour les courses françaises quand il y a des grosses équipes qui viennent s'y frotter. Et puis c'est toujours, quand on gagne une course avec un certain plateau, c'est quand même mieux que s'il n'y a pas un gros plateau. Quoi. À un moment donné, on en parlait tout à l'heure, tu dis, toi, c'est victoires franco-françaises. Mmh. Et quand il y a un peu de plateau qui s'est relevé, ça donne plus de valeur à la performance.
Bon, on va suivre ça en tout cas. Guillaume.
Ouais, je voulais juste revenir sur Cancellara. Je le mets un peu entre guillemets, moi. Oui. Parce que je pense qu'il va arrêter en avril.
Ah, tu le sens comme ça.
Ouais, je pense que Paris-Roubaix, ça va être sa dernière course. Donc, automatiquement, il peut être pris nettement beaucoup plus tôt. Je pense que sa dernière échéance, ça sera Paris-Roubaix. Donc, automatiquement, il est prêt plus tôt. Après, il faut quand même le faire.
Oui.
Arriver à un certain âge.
Voilà, après, on parle bien d'objectifs ciblés. Les coureurs ont chacun des objectifs ciblés avec, comme disait Mathieu la semaine dernière, les équipes qui vont laisser. Comme lui, voilà, ils vont lui laisser carte blanche pour faire les classiques. Il y a des équipes qui diront, mais voilà, toi, tu vas aider tel coureur, donc avec des objectifs qui seront différents. Donc on verra bien.
Et en parlant de Cadorte, mais pas de course par étape, le retour impressionnant, c'est celui du meilleur sprinter du monde, c'est Kittel qui, lorsqu'il gagne, se balade. Tout simplement, même Greipel, on l'a vu sur le Total Gave où Greipel essaie de le remonter. C'est Greipel quand même. Hein.
Oui,
et puis bon, au bout d'un moment, il regarde pour préserver sa seconde place, donc il regarde en arrière plutôt que. Parce que c'est le retour du grand Kittel.
Le gros match avec Christophe quand même. Ça va être très intéressant de les avoir sur la même ligne finish. Parce qu'on l'a vu faire des gros trucs Christophe quand même. Avec son maillot très différent de celui de l'an dernier d'ailleurs. Voilà, on a fait le tour là pour ce débat. Ça a bien réagi là. On remercie les forumers.
Ça a bien réagi. Bon,
parce que sinon on leur dit.
Non, ça a bien réagi franchement. C'est bien.
Bon, très bien.
On voit que les choses changent un petit peu par rapport à ce qu'on avait avant. Quoi. C'est vrai qu'on le disait, c'est assez intéressant. Quoi.
Voilà, donc le débat continue. Et bien évidemment, Benjamin, tu continues à animer ça sur le site de Vélo Club du Net. Vous réagissez également sur le Twitter avec guillaume@radiovélo31. Je vois qu'il y en a certains qui nous aiment des petits coucous. On fait aussi un petit coucou à Mélanie qui nous écoute, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Elle sera là pour le direct du côté du Grand Prix de Montastru, qu'on en parlera bien évidemment tout à l'heure dans l'émission. On fait également un petit coucou à Max qui est en train de préparer la présentation de son équipe, le Team Paynim. Ça sera vendredi du côté de Saint-Félix-le-Château. Et puis un petit écho quand même du début de saison amateur, on va en reparler tout à l'heure, mais là aussi, avant Montastru, il y a déjà quelques enseignements, quelques cadors qui arrivent cadors si on peut dire, à se démarquer.
Oui. Il y a déjà, je crois qu'ils sont en forme déjà là.
Oui, de toute façon, je lisais.
Principalement Plage Vendéenne et Sorbasque.
Ouais, c'est les deux grands rendez-vous, et également dans le Var, le Grand Prix.
Je lisais justement Sylvain Georges qui disait sur Direct Vélo qu'il pensait être en forme, même au-dessus des équipes, avec le beau temps qu'il y a eu, et qu'il se rendait compte finalement qu'ils étaient au même niveau, voire peut-être même en dessous de certains.
Exactement. Il pensait, certains croient penser être. Mais en fait, le niveau est monté, mais tout le monde se retrouve. Ça va rouler vite à Montastru, Gilles.
Très, très vite.
On va y revenir dans quelques instants. Que peut-on rajouter également parmi les actus de la semaine avant d'accueillir dans le sur le show dans 5 petites minutes
à Thomas Alonso et à Romain Cambistro qui sont blessés suite à leur chute. Malheureusement, je crois qu'ils sont fracture de clavicule et de l'omoplate, si je ne me trompe pas. Ouais.
Il y a Brian Nolo, je crois, de Direct Energy aussi, qui a chuté. Alors, je crois qu'il s'est cassé quelque chose aussi.
Brian Cocard, la semaine d'avant, on en avait parlé. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile quand on est blessé. Dès le début de saison, Julien était en train de regarder les petites news de Jean qui nous envoie souvent des petits échos.
Après, Johan Payot qui est passé l'année en premier, mais qui a été déclassé suite à une erreur de parcours. Encore une fois, c'est regrettable pour un coureur qui fait l'effort de s'échapper tout seul.
On va pas faire réagir Gilles, parce que ça peut porter la poisse, c'est ça?
C'est compliqué sur Montastru d'aller se tromper. Sincèrement,
à part quelqu'un qui veut éviter le mur qui tourne à gauche ou qui va tout droit, mais
c'est pas possible. De toute façon, quand t'es en bas, c'est pas possible. Donc voilà. Après, si le coureur, si avant la gare, mais il ira à gauche, ça monte au lieu de descendre, donc c'est pas possible. Donc sincèrement, sur mon tas, c'est.
Et puis il y a Julien qui est moto info, donc il s'y réveille en même temps.
Voilà,
il rapatrie tout le monde. Gilles, ça c'est l'une des inquiétudes pour un organisateur. Une erreur de parcours, ça fait pas. Mis à part l'accident, qu'est-ce qu'il y a de
ça peut arriver effectivement à Montastru qu'on a la chance peu de clubs d'avoir de près de 200 bénévoles, donc c'est quand même important. Au départ de l'épreuve, on a quasiment les deux tiers des carrefours gardés par des signaleurs à pied, donc et après la voiture de Jeannot Maraval, ça fait des années qu'il fait ce parcours, il le connaît par cœur. La crainte, c'est plutôt les grosses chutes, quoi. Le mauvais temps, les passages en dévers dans les descentes sous la pluie, voilà, c'est la crainte. Et là, on a peur pour ce week-end parce que c'est vrai que le temps est pas terrible. Samedi, il va beaucoup pleuvoir. Et ce soir, j'ai 150 engagés, hein, et ça n'arrête pas. Hein, donc,
Il y a une limite ou...
200.
200, c'est la limite.
Non, je pense qu'on sera à 150, on restera. Ouais. Mais pour moi, c'est le plus beau plateau depuis 7-8 ans. Quoi.
D'accord.
Parce qu'il y a vraiment des grosses équipes. Il y a 13 équipes de division nationale représentées, donc c'est... C'est joli.
On met l'eau à la bouche, on dira tout à l'heure les noms les plus intéressants. C'est l'heure de faire la coupure, c'est ça, une petite respiration.
Écoute, le temps que tu passes un petit coup de fil.
Passer un petit coup de fil à Arthur Vichot et on revient tout de suite. Ne bougez pas, vous êtes dans Radio Vélo.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport. Votez toute la semaine sur cetaradio.fr pour faire évoluer le top.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire.
Et de retour en direct d'un Radio Vélo après la petite coupure pub, chose promis, chose due. Notre premier invité téléphonique ce soir est avec nous, Arthur Vichot de l'équipe FDJ. Arthur, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue en direct d'un Radio Vélo. Merci de prendre quelques minutes pour être avec nous, peut-être pour placer un peu le contexte. Tu en es où ? Tu es à la maison là aujourd'hui ?
Oui, voilà, je suis à la maison, une petite période tranquille à la maison entre le Tour du Haut-Var et puis les boucles Sud-Ardèche week-end, donc voilà, une petite semaine un peu tranquille.
Ok, comment ça se passe justement après un beau week-end, on imagine, un week-end que on l'a vu aussi dans tes déclarations, que tu as pu vraiment savourer aussi bien personnellement qu'avec l'équipe et ceux qui t'entourent. Comment se passent les jours suivants, un beau week-end comme ça?
Ah bah c'est facile, hein, c'est très facile. D'autant plus bah voilà, quand la forme est là, quand les résultats sont là et puis que les courses s'enchaînent, quand on rentre à la maison, bah on peut un petit peu profiter, se reposer et puis profiter de la forme de bah voilà pour surfer un petit peu sur la vague. Et les entraînements c'est pas bien violent, hein, c'est juste de l'entretien. Voilà, quand la forme est là, il faut pas changer grand chose.
Julien ?
Oui, bonsoir Arthur. Ben justement, tu parlais d'entraînement. Est-ce que tu as changé tes habitudes sur ces deux années qui sont passées un petit peu difficiles ? Est-ce que tu as changé ta façon de t'entraîner, certaines méthodes, ou tu étais resté pareil ?
Non, pas du tout. J'ai rien changé. Je suis resté à peu près comme d'habitude. Sauf que c'est vrai que cet hiver, on a eu la chance d'avoir un bon hiver. Moi, j'habite en Franche-Comté, donc ça joue pas mal quand même, parce qu'il y a des années où on a pas mal de neige et c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai vraiment bien pu rouler. J'ai aussi pris du temps pour descendre dans le sud pour m'infliger des bonnes charges de travail, car j'avais vraiment à cœur de débuter le début de saison au meilleur de ma forme pour retrouver la confiance et retrouver les bonnes sensations.
Tu penses que t'es en avance par rapport à ce que tu t'étais fixé ou t'es dans le bon tempo par rapport à ton objectif?
Bah vous savez, comme j'étais vraiment dans de mauvaises conditions l'année dernière, je me suis pas fixé grand chose pour cette année, juste retrouver le plaisir de faire du vélo et essayer de retrouver mon niveau. Donc c'est un peu chose faite avec ce début de saison et c'est bien le principal.
Alors justement, maintenant que voilà, ça a confirmé avec cette belle victoire, est-ce que ça te laisse déjà entrevoir certaines choses qui te plairaient d'aller gagner, d'aller chercher
Ouais, bien sûr. Maintenant que mon objectif de retrouver un petit peu mon niveau et puis retrouver les premières places sur ces premières courses début de saison sont atteints, maintenant je vais pouvoir arriver sereinement sur les grosses courses. Hein. Maintenant je vais enchaîner presque 4-5 mois que de courses World Tour, donc ça sera une autre paire de manches quand même. Mais je vais les aborder sereinement avec de la confiance et puis en sachant que le niveau est là. Donc on peut s'attendre aussi à de beaux résultats par la suite.
Et justement, où est-ce qu'on va te retrouver, Arthur, dans les prochaines semaines ?
Oui, je vais faire les boucles Sud-Ardèche la semaine prochaine, le week-end prochain, et puis après j'enchaînerai sur Paris-Nice, sur Milan-San Remo. Ensuite, je me pencherai sur les Ardennaises avec le Pays Basque en préparation. Et puis à la fin des Ardennaises, je pense qu'on fera une petite coupure Et puis on va se reconcentrer sur le mois de juin et juillet avec le Dauphiné, le championnat et le Tour de France.
Et justement, ce début de saison et ce printemps, ce sont des courses qui souvent peuvent te convenir. Est-ce qu'il y en a une plus que d'autres qui te tient à cœur au fur et à mesure des années?
Pour le moment, c'est vrai que moi, je suis un petit peu concentré sur Milan-San Remo. C'est vrai que c'est une course qui me plaît. Et j'arrive en bonne condition. Je vais avoir Paris-Nice pour finir cette condition en étant un petit peu tranquille, en étant un petit peu électronique dans l'équipe, je pense, en jouant des étapes, en faisant un petit peu ma vie. Donc ça va être une semaine sympa, je pense. Et ce sera de bon augure pour préparer vraiment cette belle course qui me tient à cœur. Et je pense qu'il y a moyen de faire une belle chose sur cette course.
Benjamin.
Oui, bonsoir Arthur. Je voulais savoir, tu parlais beaucoup de confiance, d'être rassuré, tout ça. Et je voulais savoir à quel moment tu as senti que tu avais vraiment la patte. Est-ce que c'était lors d'un résultat ou même est-ce que c'était pendant une course où tu t'es dit, ah là, je suis bien?
Non, je vais peut-être même dire au bout de 2 semaines d'entraînement cet hiver, j'ai vraiment tout de suite renchaîné les grosses charges de travail. Ça revenait assez vite. Je sentais plus de fatigue au fil des jours et je sentais vraiment que ça allait vraiment bien. Et puis au fil des semaines, au fil des entraînements, la condition arrivait petit à petit. Et puis dès le stage de janvier, là en Espagne avec l'équipe, on a commencé à mettre les bouchées doubles. On a fait pas mal d'exercices, pas mal de tests. Et là j'ai vu que la forme était là, que les soucis étaient loin et que je pouvais arriver sur les premières courses de début de saison confiant et que les résultats allaient être là.
Et est-ce qu'avec ces difficultés que tu as traversées, tu sens qu'aujourd'hui, après avoir passé toutes ces épreuves, tu es plus fort, ne serait-ce que mentalement?
Ouais, mais c'est vrai que j'ai mûri. Hein. C'est vrai que quand tu passes par des moments difficiles, tu te poses pas mal de questions ou tu es pas au fond du trou. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout à ma place et je voyais pas faire du vélo comme ça encore longtemps. Donc je pense que c'est juste que je prends les choses maintenant de façon positive. J'essaye de trouver du plaisir un petit peu. Dans tous les domaines, à l'entraînement, en course, puis me faire plaisir tout simplement.
Guillaume.
Oui, bonsoir Arthur. À quoi tu attribues en fait l'excellent début de saison de la FDJ en général? Parce qu'il y a toi, il y a eu Arnaud Desmarres. Ouais. Est-ce que c'est des changements d'entraînement? Apparemment, tu nous as dit que non. Ou est-ce que c'est une alchimie qui a pris peut-être au fur et à mesure dans les années avec les coureurs?
L'équipe, elle était un petit peu dans la même situation que moi finalement l'année dernière. On n'a pas fait une grande saison. L'année dernière, on peut se réjouir d'avoir eu un grand Thibaut Pinot qui nous a sauvé l'année, mais sinon, c'était pas sensationnel. Donc, dès cet hiver, on s'est remobilisé, on a essayé de je sais pas si on peut dire crever certains abcès, mais essayer de trouver ce qui allait pas et puis vraiment repartir du bon pied pour oublier cette mauvaise saison 2015 en général de l'équipe et puis faire une belle saison 2016. Donc, on a aussi pour objectif d'arriver sur le début de saison en bonne forme et être conquérant surtout, et puis être vraiment irréprochable dans l'attitude, en étant vraiment groupé, collectif, et puis en allant de l'avant.
Gilles, une question peut-être pour Arthur.
Oui, bonsoir Arthur. Si tu ne devais gagner qu'une prochaine épreuve, qu'est-ce que tu aimerais gagner?
C'est pas facile, hein. Il y en a des belles. S'il y en aurait une quand même, franchement, je choisirais le championnat de France à Vesoul, c'est à 30 km de chez moi. Il y aura toute ma famille, tous mes amis. Et puis j'ai eu déjà la chance de vivre ce moment-là et de porter ce maillot pendant un an. Et je pense que c'est une des plus belles choses qui puisse arriver pour un coureur français. Donc ça serait vraiment génial.
Bonne note en tout cas pour la liste pour la liste des souhaits. Par rapport au début de saison, on parlait tout à l'heure dans notre petit débat de ceux qui brillaient plutôt au début de saison, des coureurs plus en difficulté. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi bien à côté de toi sur la bicyclette ou à la télé qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un coureur qui t'a interpellé un petit peu, Arthur?
Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop regardé les épreuves à la télé, vu que les épreuves début de saison, c'est pas trop diffusé.
Oui.
Mais d'après ce que j'ai un peu vu, j'ai vu que on avait retrouvé du très grand Boissenhagen, donc c'est de bon augure pour lui, pour les classiques qui arrivent, parce que c'est vrai qu'il avait fait un début de carrière exceptionnel, et puis on l'avait un petit peu perdu, et là, il est de retour en grande forme, donc on peut s'attendre à un grand Boissenhagen sur les classiques, je pense.
D'accord. C'est un coureur que tu connais un peu plus que d'autres, qui a un âge pas loin de toi? Non, pas du tout.
Non, pas du tout, mais pour demander à quelqu'un, c'est un peu okay. Lui que j'ai repéré, mais sinon, je ne peux pas trop vous dire.
Julien.
Pas couru avec grand monde encore.
Non, pas encore. Ouais, c'est vrai que sur les épreuves du début de saison, on retrouve peut-être un petit peu les mêmes coureurs sur les mêmes fronts, Julien.
Ouais, non, moi je voulais juste dire, lui poser une question parce que voilà, comment ça se passe quand on passe des années comme ça difficiles à être un petit peu à côté du vélo et qu'on est dans une équipe où, comme dans une entreprise, on demande des objectifs et des résultats et que voilà, malgré tout ce qu'on puisse mettre en place, ça ne fonctionne pas. Je suppose que ça doit pas être facile.
Non, c'est pas facile, c'est sûr. En plus, dans le vélo, c'est un côté que j'aime bien, mais dans le vélo, quand on rentre chez soi, quand on n'est plus avec l'équipe, plus dans les courses ou plus dans les stages, on est seul à la maison. On peut se retrouver des périodes d'un mois ou deux mois seul à la maison. Donc, c'est vrai que quand ça va pas, il faut être fort mentalement et puis être bien entouré parce que le temps est long et puis on se pose beaucoup de questions. Donc, voilà, personnellement, je pense avoir un bon équilibre autour de moi. Donc, c'est ce qui m'a permis de.
Ouais, dans ces cas-là, il n'y a pas d'aide.
Avancer, quoi.
Ouais, tu as parlé de psychologie, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas facile, tu vas t'entraîner tous les jours, bon, la forme est pas là, il y a des pépins, à un moment donné, on a envie de dire, bon, mais c'est bon, le vélo, c'est bon, je le prends, quoi.
Ouais, des fois, c'est vrai que, je rentrais d'entraînement, je me disais, mais qu'est-ce que je fais sur un vélo, quoi, mais bon, après, c'est notre passion, hein. Si on arrive à ce niveau-là, c'est qu'à la base, on faisait du vélo parce qu'on aimait ça, et mine de rien, on l'aime, ce sport, on aime notre métier, et on se dit, on est fait pour ça, quand même, donc on voit les choses positives, et puis on se remet un petit peu en question et puis on se dit allez, hein, ça va le faire, ça va bien tourner et on trouve toujours des petits moments de positifs. Des fois, j'allais à l'entraînement, ça allait pas, mais le lendemain ça allait un petit peu, donc je dis allez, je rallonge un coup, ça me fait plaisir, c'est sympa, voilà, c'est une bonne journée, et puis on essaie de trouver un petit peu de bonheur, un petit peu de plaisir où il peut s'en trouver.
Bon, on va remercier Arthur d'être passé nous faire un petit coucou dans Radio Vélo. Arthur qui est toujours aussi disponible. On te souhaite une bonne soirée, Arthur, et puis une bonne continuation sur cette lacée.
Rendez-vous à Vesoul, alors. Rendez-vous à Vesoul.
Comment?
Rendez-vous à Vesoul.
Ah oui, j'espère bien. J'espère que vous serez là.
Il y aura toute la Franche-Comté derrière toi, là.
Ouais, il y aura aussi son partagé avec Thibaut aussi. Donc, je pense que en tout cas, on espère les deux que ça va être une belle fête parce que. Voilà, en Franche-Comté, en ce moment, il n'y a pas énormément de satisfaction dans le sport. Et voilà, d'avoir les championnats de France, d'avoir deux bons coureurs français au niveau... franc-comté au niveau français, je pense qu'on espère en tout cas que le public va être là et que ce serait une belle compétition.
Bon, mais en tout cas, on te dit à très bientôt, Arthur, et merci d'être passé dans Radio Vélo.
De rien, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Merci, ciao.
Et c'était Arthur Vichot en direct dans Radio Vélo. Arthur, et oui, avec qui on est revenu sur les moments difficiles. Mais s'il a eu des moments difficiles, c'est aussi parce qu'il avait eu d'excellents moments avant. Il y a des vies de coureurs qui sont marquées juste un travail d'équipier et pas jamais de victoire. Mais lui, il avait gagné des trucs, il avait gagné le championnat de France, il avait gagné super course. La dernière victoire, c'était sur Paris-Nice, on disait tout à l'heure avant l'émission. Lui avait connu le succès. C'est ça qui est compliqué.
C'est là où c'est compliqué. Quand tu connais comme lui, t'es champion de France, après deux années où c'est devenu très compliqué, comme je dis, si t'as pas le mental, si t'as pas un bon entourage pour te dire je suis passé un peu par là et c'est pas facile, tu vas t'entraîner tous les jours, la forme est pas là, il y a rien qui va, et à un moment donné tu peux dire à un moment donné c'est bon quoi, j'arrête, je vais travailler comme tout le monde, et puis c'est important le soutien psychologique, que ça soit du coach, de l'encadrement familial, etc. parce que voilà, ça, des fois ça tient qu'un fil, et même si le travail paye, des fois on le voit, ça paye pas quoi, un an, deux ans, tu marches pas, et voilà, après une année après ça, tout se passe pour le mieux, et c'est que mieux quoi.
Ouais, puis ça doit être difficile aussi de voir l'échéance de son contrat qui arrive à la fin. On sait comment ça marche dans le cyclisme. Hein. Deux ans sans arriver à reprendre le niveau.
Tu te rendais compte. Voilà. Les résultats, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait?
Il faut que le staff, Marc Madiot, etc. Il fallait qu'ils aient confiance en lui pour se dire, allez, on retente. Et
quand t'as gagné, t'as le salaire en général qui est peu revalorisé, t'as encore plus la pression, ça ne s'arrête jamais.
On te dit attends, je te paye pas pour faire des 5 gagnants de place à un moment donné, donc il faut y aller. Hein.
Mais en tout cas, Arthur Vichot est de retour sur le devant de la scène, il n'a que 27 ans, faut-il le rappeler. Il a toujours été dans cette équipe FDJ, on verra peut-être si un jour il regarde d'autres choses, ça serait intéressant, on ne peut pas lui poser la question maintenant, parce que en même temps, là, il est au top et tout, il revient, on ne va pas l'embêter avec ce genre de questions. on peut lui dire qu'il s'y pense du transfert de Pirola. Enfin,
bref. Maintenant, si FDJ lui a fait confiance ces années difficiles, oui. Je peux comprendre qu'il se sente redevable.
Bah, de toute façon, il est là jusqu'au 31 décembre, qu'il le veuille ou non. Ouais.
Non, puis c'est, non, vrai que... c'est sûr que c'est ce que je voulais un peu qu'il me dise. Quoi. Ouais. C'est que voilà, il a passé deux années difficiles, FDJ lui a quand même fait confiance, ouais. Il l'a quand même conservé.
Est-ce que ça aurait été le cas dans une autre équipe? C'est pas sûr.
C'est pas sûr.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça fait une certaine stabilité quand même.
Ce qui était intéressant, c'était aussi de remettre aussi la situation sur l'ensemble de l'équipe. C'est vrai que c'était l'ensemble de l'équipe qui sortait d'une saison cachée par la forêt Pinot, quoi. Hein. L'arbre Pinot qui cachait la forêt FDJ, c'est ça.
Après, notre ami
Génies avait fait une belle saison aussi. Il y a plusieurs satisfactions, mais au niveau du sprint, c'est vrai qu'avant, ils avaient Démare Boigny qui gagnait tout il y a 3 ans. Et là, bon, ben, Boigny était parti et Démare n'en gagnait plus. Alors, c'est sûr que rien que niveau sprint, c'était
pas. Il n'en a pas parlé, mais je me demande s'il n'y a pas eu une réunion en début de saison où ils ont laissé plus de liberté aux équipiers de remporter des victoires.
Quand il parle de crever l'abcès, c'est que quelque part, il y avait du mal derrière qui se faisait. Tu dis pas que tu vas crever l'abcès. Il devait vraiment se passer des choses.
Parce que je me souviens, en 2015, ils avaient dit il y a un front pour Thibaut Pinot et il y a un front pour Démare. Et les autres coureurs étaient un peu étouffés, hein, entre guillemets, par ces deux coureurs.
L'an dernier,
oui. Et cette année, ils ont un peu refait comme ils faisaient avant, c'est-à-dire avec plus de liberté. On le voit,
l'effectif a aussi un peu évolué et suffisamment peut-être pour qu'il y ait des répartitions différentes sur les objectifs.
C'est possible. Et puis après, de toute façon, on le sait, hein, même si c'est pas les grosses courses, gagner en début de saison, ça fait du bien, spirale positive. On le voit avec Direct Energy. C'est parti au Gabon et maintenant ça continue avec Vauclair, avec Almevin aussi, qui est super néo-pro, il faut le dire.
Et comme le disait Alain Casanova, l'ancien entraîneur du TFC, les points qui sont pris ne sont plus à prendre. C'était une tirade assez commune. Maintenant, il n'y a plus de points du tout. Bref, la chronique va tout.
Toujours Monet.
Bah surtout aujourd'hui, encore plus.
Monet et bitume pour essayer tous ces accessoires. Guillaume, quoi de neuf sur Matos Vélo?
Alors, j'ai pas tellement parlé de matériel aujourd'hui, mais de rachat d'entreprise, parce qu'on a parlé il y a pas longtemps de Look qui a racheté Corima. Là, il y a eu deux rachats ces dernières semaines. Il y a Hammer Sport, ça parlera pas à beaucoup de monde. C'est une entreprise finlandaise qui est propriétaire notamment de Mavic, Salomon, etc., qui a racheté la société américaine Envy, qui fabrique des roues, etc., en carbone. Donc voilà, c'est une entreprise vélo de plus dans le giron de Hammer Sport. C'est le coût du rachat, je crois, c'est 50 millions de dollars qu'ils ont payé en cash. Donc voilà, il n'y a pas de crainte financière pour le groupe.
Pas de souci.
Apparemment, tout va bien. Et la deuxième info, là, c'est nettement moins cher. La société Rossignol qui a racheté Time. Les cadres Time, enfin les vélos Time, là par contre le rachat est beaucoup plus faible, c'est 1 euro symbolique, avec donc les dettes qu'il y avait. Bien sûr, ils ont racheté les dettes avec, il y a 8 millions de dettes. Donc voilà, donc Time qui a été racheté par Rossignol. Moi, ce qui m'a étonné, c'est surtout les 8 millions de dettes pour 12 millions, je crois, ils font 12 millions de chiffre d'affaires par an. Donc ça fait quand même pas mal de dettes. À se demander s'il a laissé la production en France des vélos carbone, c'est une bonne idée. Après, on verra si Rossignol reste dans cette optique-là, mais il va peut-être falloir creuser quelque chose à un moment, parce que Look a délocalisé sa production en Tunisie pour des problèmes de coût de main-d'œuvre. Time qui continuait, bah, c'était avec le PDG à l'époque, Roland Catin, qui est décédé en 2014. Je me demande si à un moment il n'y a pas une partie de la production qui va partir à l'étranger, parce que je pense qu'une entreprise comme Rossignol ne va pas laisser continuer une entreprise à avoir des pertes comme ça. Donc,
Les sujets d'actualité sont aussi les sujets du vélo, plus que jamais.
Voilà.
Malheureusement, Gilles, vous êtes témoin de tout ça.
On peut lancer un appel donc, sur Radio Vélo pour acheter une entreprise de vélo, de roues ou autre, c'est super.
Ah oui, non, il y a de quoi faire. Hein.
Parce que là, je pense qu'un euro symbolique, il y en a qui ont dû se dire derrière... Ouh là là, c'est intéressant, mais après, bon, il y a les dettes.
Il y a les 8 millions de dettes, et puis bon, les salariés, je crois qu'il y a 110 salariés qu'il va falloir payer de suite. Hein, Donc voilà, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que cette Time, ça fait quelques années qu'ils étaient en difficulté, surtout depuis le décès de leur PDG. Donc au moins, ça va permettre à l'entreprise peut-être de repartir sur d'autres bases et en tout cas de continuer à produire d'excellents cadres de vélo.
Bon, très
voilà,
bien.
Et c'est tout pour l'instant. Pour les news, c'est assez calme en ce moment. On va attendre Paris-Nice pour dégoter.
Ah là, tu pars avec ton appareil.
Les pédaliers.
Voilà, pédaliers. Je vais essayer, mais la FDJ, je pense que j'ai intérêt à me mettre très loin parce que s'ils vont me voir arriver, ils vont tout cacher.
Allô, Thierry, oui, il y a Guillaume qui arrive, attention, plein de clomatos. Il n'y en a pas d'autres qu'on ait des trucs sur le feu, là. Il n'y a que FDJ qui a cet engin.
Pour l'instant, officiellement, je crois qu'il n'y a que la FDJ qui teste le 14 puissance Shimano. Après, pour les nouveautés, on n'en sait pas plus. Ça se découvre souvent sur Paris-Nice et Critérium du Dauphiné. Donc voilà, ça va être les
deux. T'as bien fait d'appeler Lada News la semaine dernière et Bichot cette semaine, parce qu'après, on ne pourra plus les avoir dans Radio Vélo. Ouais, Guillaume, on n'aura plus de coup de téléphone.
J'ai même eu Sébastien Joly à l'interview il n'y a pas longtemps au téléphone. Ouais. Et ouais, il y a eu beaucoup de sujets sur lesquels il ne fallait pas. Enfin, si, je pouvais poser des questions, mais je n'avais pas de réponse.
Donc,
mais bon, c'est le jeu. Hein.
C'est numéro rouge maintenant.
Voilà.
Merci, Guillaume.
C'est tout, ben, avec plaisir.
Cette chronique matos. Et oui, la minute régionale cette semaine, c'est plutôt un bon quart d'heure, 20 minutes même régionale, parce qu'on va prendre le temps pour présenter ce Grand Prix de Montastruc, hein, Montastruc qui est situé dans, on va dire le nord toulousain, non, on dit le nord-est.
On dit le nord-est à 20 km pile du Capitole.
Voilà, entre Toulouse et Albi plutôt.
Entre Toulouse et Albi.
Plus précis pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et puis ceux qui ne sont pas d'ici, eh ben ils sont toujours nombreux chaque semaine à réagir sur le Twitter Radio Vélo quand c'est Enzo Photo, l'un de nos suiveurs qui disait ouais, dis donc, j'aime bien l'excitation montante dans l'équipe Radio Vélo à l'approche de Montastruc. Oui, c'est un grand rendez-vous. Du début de saison, Julien a pris le petit livret que Gilles Girardeau, le président organisateur qui est avec nous en studio, eh bien nous a apporté avec les petites pubs du maire, le tracé.
Déjà des horaires de passage, parce que voilà, c'est important dimanche, les grands prix de montagne, les points chauds.
Alors, le point chaud, c'est la restauration.
Non, c'est
13h30, ça, c'est pour les suiveurs, c'est le départ, c'est ça?
13h30, oui, le départ.
Bon, et c'est parti pour le Grand Prix d'ouverture. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a à retenir au niveau du parcours par rapport aux autres années? Est-ce que c'est un parcours généralement qui évolue beaucoup déjà, Gilles?
Non, c'est je crois que ça fait 3-4 ans, on reste sur le même parcours. Le parcours plaît aux coureurs, il plaît aux directeurs sportifs. Je pense qu'il doit plaire aux spectateurs, puisque les gens viennent très nombreux. Et donc on se dit que bon, finalement, c'est une classique maintenant, on garde le parcours, même si il y a certains endroits où les routes sont de moins en moins bonnes. Mais c'est un peu difficile, hein, de changer de parcours comme ça. Quoi.
D'accord. Quand on s'aperçoit que les routes sont pas assez bonnes par endroit, qu'est-ce qu'on fait? On peut solliciter un peu les mairies, le département, ou malheureusement ça peut pas bouger comme
compliqué.
Ça.
On le fait aujourd'hui. Bon, c'est le département. Hein. Ce qu'ils font, c'est que 2-3 jours avant, ils bouchent un peu les trous. Quoi, hein.
Oui.
Aujourd'hui, on nous dit que il y a pas de budget pour refaire les routes.
Et oui, c'est bien évidemment compliqué. Budget, c'est vrai, on en parle souvent aussi avec les organisateurs du côté du Grand Prix de Montastruc. Pas d'inquiétude particulière ou ça a été plus compliqué qu'une autre année?
Stable de ce côté. On a été très déçus que la nouvelle région ne nous octroie pas le quart podium.
D'accord.
Ça a été un peu, surtout à 10-15 jours avant le Grand Prix, c'est un coup qu'on a du mal à digérer.
Voilà, et ça, pas d'explication véridique.
C'est un partenariat qui était depuis longue date.
Via notre partenaire Sport Service à l'abord. Il y avait un partenariat, donc le Montastruc a toujours depuis plusieurs années le quart podium de la région. Et puis cette année, avec la nouvelle région, un vote a eu lieu il y a 15 jours. Et donc à la majorité, ils ont décidé que tant que le nouveau logo et le nouveau nom ne seraient pas sortis du chapeau, puisque apparemment ça c'est un peu compliqué, le quart podium resterait au garage. Donc il est dans un garage, je pense, depuis la mi-octobre, depuis la dernière manche de la Coupe de France de cyclocross à Albi. C'est quand même dommage.
Bon, ben ça, en tout cas, on va pas manquer de le relayer sur Radio Vélo et de le faire savoir, parce que c'est vraiment malheureux et quand même toute une organisation qui se décarcasse avec plein de bénévoles. Qui
200 bénévoles.
Enfin, encore, s'il était à un festival de rock ou je ne sais où, ce camion, mais il sera sur un parking, c'est quand même lamentable pour tous ceux qui aiment le sport et la culture.
C'est un peu dommage, c'est un peu la guéguerre qu'il y a entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, hein, sans rien cacher. Bon, c'est un peu le sujet aujourd'hui, quoi. Mais on aurait pu se dire que nous le dire début janvier, c'était acceptable. 15 jours avant une épreuve, c'est quand même pas... C'est pas top. Mais on rebondira, hein, y a pas de souci.
Non, ben c'est sûr, y a que des solutions, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas très plaisant. Julien, qu'est-ce que t'as voté
Justement, il parlait tout à l'heure de plateau exceptionnel depuis 6-7 ans. Est-ce que déjà, ben voilà, tu peux nous donner un petit peu l'eau à la bouche des grandes formations qui viendraient, qui seraient là présentes?
Donc effectivement, il y a près de 150 coureurs au départ, il y a 13 comités représentés et 48 clubs, hein, même si il y a des clubs bien sûr qui sont notamment les teams, hein, mais qui représentent quand même leur club, même s'ils courent sous le team. Il y a le Japon, 5 Japonais au départ qui sont là pour apprendre, hein, je pense pas qu'ils seront à l'arrivée devant. Et puis il vient de s'engager un coureur de l'île Maurice aussi, qui en fait est à la Coupe d'Afrique jusqu'à vendredi et qui prend l'avion, qui vient courir Montastruc. Je crois savoir qu'il fait des études maintenant à Montastruc. Et donc je vais le citer, c'est Grégory Rougier-Lagan. Je sais pas si vous le connaissez.
Oui, je le connais, c'est un très bon grimpeur.
Ah, super, super. Voilà, autrement, les formations bien représentées, je le disais, il y a 13 équipes de division nationale. Donc, il y a le Périgueux-Dordogne qui est là, il y a le CC Marmande, comme tous les ans. Il y a un représentant de Sojasen, même si c'est Arthur Troy, hein, qui est dans le coin, qui le revient. Local. Le VS Hiérois, il y a le nouveau club du VCA du Bourget, qui viennent nombreux, ils viennent une dizaine de coureurs. Ils étaient en Espagne, ils passent par Montastruc. Le vélo sprint Narbonnais, il y a Béziers Méditerranée, le VC Tulliste, là aussi une équipe de division nationale. Après, il y a le top 16, hein, des Charentes.
Habituel aussi.
Habituel. L'AVC Aix-en-Provence, il y a une grosse équipe de Martigues. Une encore plus grosse, on va dire, en nombre du VC La Pomme de Marseille. Et je crois que ces deux équipes, quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit « on vient pour faire un truc ». Donc c'est vraiment ouvert. Les Japonais, je le disais, Blagnac en grand nombre, même si moi j'avais mis une pièce sur Romain Campistrou, et là je suis déçu pour lui. Parce que je pense que cette année, il faisait un truc, je sais pas, je le sentais. J'ai déjà senti des choses qui sont arrivées, donc lui, je le sentais bien. Il y a Penheim, hein, je pense qu'il y a Max qui va réagir, là.
Et non, on va pas l'avoir, parce qu'il est en plein boulot, notre ami Max, non pas pour préparer la course, mais aussi la présentation de son équipe. Et en tout cas, oui, ils sont remontés comme des pendules, hein, pour ça, pour le Grand Prix de
Voilà, et puis après, il y a l'US Montauban, l'Occitane, et puis le nouveau team 24, là, dirigé par Jean-Luc Delpech, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Et apparemment, ils sont motivés aussi.
D'autres questions?
Et on n'aura pas le vainqueur donc l'année dernière sur au départ. Parce que
Thibaut Nantz, malheureusement, a arrêté sa carrière en milieu d'année. Je crois savoir qu'il est, il est militaire. Hein,
oui, cet été, il a pu pour passer ses concours de gendarme, je crois. Ouais.
Il me l'avait dit à l'issue de la cérémonie, après le prix d'ouverture, c'est ma dernière année, si je passe pas pro, je pars dans les... Je crois qu'il est parti dans les chasseurs alpins. Et bon, il l'a fait plus vite que prévu. Hein.
Non, c'est assez unique d'ailleurs, ouais. Hein, je pense dans l'histoire du Grand Prix Montastruc, où l'année d'après, ben, le coureur, on peut parler un peu de ce palmarès, Julien, où le coureur qui a remporté le Grand Prix Montastruc et qui est donc en général plutôt un espoir, hein, ouais, du cyclisme ou un vieux routard, c'est quand même assez rare d'arriver.
Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est que aujourd'hui, ben on a moyen de savoir, hein, sur notamment sur Strava, hein, de voir un peu les performances. Et c'est vrai que sur le circuit du prix d'ouverture, il y a beaucoup de points de repère. Et bien sûr, c'est les gens en course, hein, qui font les meilleurs temps. Et Thibaut Nantz dans la Côte d'Alsace, il avait développé 540 watts. Donc ça prouve quand même qu'il y avait du potentiel là. C'est dommage.
Attention, le com du mur d'Angaina est peut-être tombé aujourd'hui. J'annonce, on attend de Guillaume Gaborio de l'Occitane.
C'est le road pit de Max apparemment qui dit qu'il serait sacrément en forme.
Là il a fait, il a fait tout le. On est parti de Toulouse ce matin. Il a fait toute la sortie à Jeun. Donc, il est en forme.
Il a pas bu d'alcool ou
pas? Il a mangé deux œufs et un jus d'orange. Il voulait faire travailler les lipides un peu.
Et tu vas lui mettre la pression à ce pauvre garçon, là.
Ah, mais je lui ai mis depuis octobre. Ah. Je lui parle du Grand Prix de Montastruc.
Est-ce que tu sais à quelle moyenne il a gravi la
Alors, je l'ai vu passer puisque j'étais parti un peu avant lui dans le mur. Et je crois qu'il a monté gros plateau. Donc, il est parti un peu de l'autre côté. Donc, j'attends de voir.
Bon, après ça monte grand plateau. Après l'efficacité, faut le regarder aussi, quoi. Hein, mais
faut voir le rapport, quoi. Hein, parce que on peut rester sur le petit plateau et monter assez rapidement. Nous, moi, j'ai fait monter les cadets là il y a quelques jours de Montastruc et j'étais vraiment surpris de voir à quelle allure un cadet peut monter en Galina, quoi, et facilement, quoi. Hein.
Ouais, tu as une faculté à tourner les jambes, mais quand on s'est vu l'autre jour, pareil, Clément a voulu aller monter et il m'a assez surpris aussi, quoi, de le voir monter avec un braquet très fin, assez rapide.
Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont légers. Hein.
Ouais, ils sont légers, c'est ça qui.
Donc on a, au niveau parcours, donc comme on dit tout à l'heure, ça n'a pas changé, toujours une grande boucle d'une centaine de kilomètres, 105 kilomètres. Ouais. Et ensuite, donc, on aura à 5 reprises la montée donc, de ce fameux mur d'Angaléna qui développe environ une pente à 23-24% environ.
Oui, il y a un petit passage à 26, mais voilà, en gros, c'est un peu plus de 20% de moyenne, quoi.
Guillaume va nous dire s'il y a des petits pronostics, mais on en reçoit un de Seb qui sera avec nous pour commenter l'épreuve sur Radio Vélo. On va en parler également. Il nous dit la première attaque sera pour le team Payney, mais sûrement pour Max. Bon oui, c'est sûr qu'on va suivre ça. L'une des particularités aussi à Montastruc, c'est qu'une échappée, même si elle part dans la première partie de la course, peut parfois aller très très loin.
Souvent.
J'allais dire les dernières années, ça a été le cas. Hein, ça a été le cas.
Il y a des mutations qui se font, il y a toujours une échappée qui se forme, qui se trouve aux avant-postes, et après en fait il y a des coureurs qui se font lâcher, qui se font rattraper par le peloton, d'autres qui sortent, qui vont intégrer le groupe de tête, donc il y a une espèce de roulement qui se fait comme ça dans la course. Et mais souvent voilà, faut pas manquer la bonne dès le départ du grand parcours. Si jamais il y a du vent aussi, c'est prépondérant, quoi.
Julien, d'autres infos toi qui a l'œil aussi sur ce Grand Prix de Montastruc pour suivre les coureurs, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce Grand Prix de Montastruc?
Il faut attendre déjà, c'est à Météo qu'il va falloir surveiller de près, parce qu'on a sur le grand parcours, on a des routes qui sont étroites, sinueuses, qui sont des fois parfois glissantes quand il vient à pleuvoir beaucoup, même s'il n'y aura plus la veille. Donc voilà, ce sera un facteur qui sera très important. Et ces dernières années, quelquefois, on avait vu la neige au départ, il y a deux ans de cela ou trois ans de cela. Donc ça sera, voilà, ça sera très important. Après il y a vraiment cette année un plateau assez impressionnant, donc on peut s'attendre à une course qui va être débridée dès le départ, ça va rouler très très vite, avec une, à mon avis, une échappée qui va se développer d'une quinzaine, vingtaine de coureurs, avec les meilleurs coureurs, toutes les équipes représentées. Et après je pense que ça sera comme d'hab, mais le plateau cette année est assez impressionnant, quoi. Et quand je vois qu'il y a la Pont-Marseille qui vient, que c'est des grosses équipes qui sont là présentes, on peut s'attendre à avoir une course très mouvementée et très débridée, ouais.
Benjamin, toi qui as reconnu le parcours aujourd'hui en vélo pour Radio Vélo, parce que ça bosse dans Radio Vélo, est-ce qu'il y a des infos pour Gilles? C'est beau, les trous sont rebouchés?
Non, ça va. La seule chose que j'ai trouvé peut-être un peu dangereux, mais bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est la première descente vers Pessières, où je trouve le bas côté droit qui est, on peut vite tomber, quoi, mais bon, ça, on peut pas.
Mais là, ce qu'il y a, c'est que là, c'est tellement étiré, avec la côte de Buzet, c'est tellement étiré que la route est large, quoi.
En général, c'est en file indienne, pratiquement, hein.
Puis moi, ça me va bien parce que le point chaud après, je peux bien faire le point chaud après, c'est impeccable.
Mais après, je trouvais le parcours vraiment sympa, puisqu'on commence sur une route quand même assez, assez large, mais très exposée. Mmh. Après, on descend, il y a la côte de Roquemort, avec le pont, ça va étirer, le pied de la côte est assez dur. Après, sur le haut, bon, ben, on sait que c'est là que ça va casser avec les relances.
Souvent, ça étire déjà quand tu as viré à droite sur mon joueur, tu as la longue ligne droite, tu as souvent du vent de côté. Il y a tout le temps du vent de côté. Souvent, ça va avoir duré là et souvent, il y a un petit coup qui s'en va à peu près dans cette zone-là. Et après, ça peut se faire aussi dans la première côte de Roquemort.
Après, il y a Tauriac, je pense que là, ça va bien péter. Parce que... Et après, je trouve que ça m'a fait penser un peu, si on enlève les pavés autour des Flandres, les petites routes, là, ça monte, ça descend.
C'est merveilleux. Alors, on entend parler depuis des années du championnat du monde du Sud, maintenant le Tour des Flandres.
On a le petit Tourmalet qu'on va escalader aussi.
Le petit Tourmalet,
ça m'a surpris.
C'est le Trobroléon, quoi.
Le petit Tourmalet. On sait, Gilles, d'où vient l'anecdote du petit Tourmalet, non, ou pas?
Alors, je l'ai su, mais je me rappelle plus trop. En fait, c'est bon les 3-4 lacets hein, qu'il y a au départ.
Ah, quoi, c'est pentu quand même aussi.
Ouais, qui sont très pentus. Hein. Après, c'est un faux plat, et puis après, ça remonte sur la fin aussi. C'est pas une côte facile, hein, Julien. Je sais pas si tu t'en rappelles.
C'est pas une côte facile parce qu'on vient d'aborder une longue partie roulante où on a roulé avec du grand plateau et souvent en allure très rapide. Ouais. Et on vient buter sur cette ascension-là où souvent on va mettre petit plateau et l'entame est difficile avec des forts pourcentages avec ces 2-3 virages qu'il y a. Et après, il y a pas de bascule directe, quoi. C'est un faux plat, ça vient mourir. Il y a certes la petite descente pour la remonter sur le Saint-Gerlaire, mais voilà. C'est une des difficultés qui est abordée de façon différente. C'est pas comme au Rocomo, on peut y arriver, on peut monter grand plateau, le tomber après. Là, on arrive, on vient buter vraiment sur le petit Tourmalet. Et si on a un peu de fatigue en arrivant là, on peut accuser le coup et prendre 3-4 mètres comme on a eu certaines fois et perdre le contact avec le groupe.
Souvent, des coureurs m'ont dit qu'ils se mettaient vraiment la pression dans le petit Tourmalet parce que c'est l'entrée du circuit après.
Il faut pas oublier surtout, je te coupe, c'est qu'on sort d'une route très large, la route de Verfeil, et on arrive dans cette petite route, il n'y a qu'une voiture, donc les places sont difficiles et si on n'est pas devant là, on peut se faire coincer.
Moi, je voulais juste faire un point météo. Je l'ai sous les yeux. Après, est-ce que ça sera fiable? Je sais pas. Il y aura des averses, donc pas trop de pluie. Mais c'est vrai que par contre, samedi, il va beaucoup pleuvoir.
Ouais. Pour la préparation, samedi. Ouais.
8-9 degrés, donc ça va bien pour les coureurs, je pense. Par contre, vent d'ouest avec des rafales à 50 km/h. Donc le vent va quand même.
C'est fiable, là, cette boutique-là?
C'est fiable.
Donc vent d'ouest, ça veut dire qu'ils auront vent de côté sur la partie en bas là, qui va aller sur Bessières, et après tout là-haut, tout l'eau et le retour, ils auront vent de dos. Par contre, là où ça va faire mal aussi, c'est quand on revient sur Rabastens. Rabastens, qu'on prend la grande route, là ils auront vent de face, le reste du circuit là.
Comme en plus il y a des grosses équipes qui viennent, ils peuvent peut-être faire jouer un coup à ce niveau-là.
Ouais, mais moi je pense que avec le vent qu'il y aura effectivement, comme disait Julien, en partant sur Bessières, la grande ligne droite, s'il y a un vent de 50 à l'heure de côté, ça va bordurer et les plus costauds vont être devant d'entrée. Hein.
Bon, on va suivre tout ça, Gilles, avec Radio Vélo. Merci d'être passé encore ce soir dans l'émission. Le direct, pour la quatrième année consécutive avec l'équipe de Radio Vélo, et bien entre 14h et 17h environ, arrivé vers 17h, Gilles. Non, un peu avant, un peu
42
après.
42 km/h, on arrivera avant 17h.
Avant 17h même. Donc, 14h, 17h, le direct sur radiovélo.fr. C'est ta radio avec vos smartphones sur le vélo aussi. Vous pouvez nous écouter avec Julien sur la moto, avec toute l'équipe à côté.
Et ceux qui sont sur la course, mettez votre smartphone dans les oreillettes et vous aurez des infos en direct.
Voilà, à côté du podium et toute l'équipe de Radio Vélo, on sera là. Et puis, merci encore pour l'accueil. Merci d'avance, Gilles.
Et merci à vous.
Rien à rajouter, c'est bon? On a été complet?
Non, mais je pense que oui, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Mais moi, j'ai l'impression comme si j'étais à 13h29 prêt à partir. Bon, je ne suis pas sur le vélo, mais j'ai la même pression. Voilà.
Tout est prêt, alors c'est bon pour ce beau dimanche de vélo du côté du Grand Prix de Montastruc.
On va se régaler.
À venir encourager les coureurs ou à vous connecter si vous êtes un peu plus loin sur radiovélo.fr. Ciao, bonne semaine à tous.
Bonne semaine, ciao.
Au revoir.
J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Car la roue tourne, car la roue tourne, retourne. Car la retourne, retourne.